16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, 2 heures pour vous détendre les zygomatiques sans pour autant vous ramollir les neurones, une émission à la fois documentée, rieuse, sérieuse et joviale, bref, une émission qu'il fait bon présenter.
Y compris nu.
Oui, à moi de vous convaincre que même habillé, ça a son charme aussi. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, j'ai toujours été habillé dans cette émission, même si on déshabille un peu sa pensée. Chaque après-midi sur Europe 1, c'est vrai qu'on tente de faire rimer détente et savoir autour de 3 personnages très différents qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui avaient un point commun. Aujourd'hui, leur vie est digne d'un film. Tellement digne qu'elle a été adaptée au cinéma. Et c'est vrai qu'en y regardant de plus près, sur grand écran, toute ressemblance avec ces personnages existants n'est pas purement fortuite. À commencer par Benedetta Carlini. C'est sous les traits de Virginie Efira qu'on a redécouvert la folle vie de cette nonne italienne lesbienne qui a secoué sa communauté religieuse au XVe siècle. Puis, plus récemment, lui, c'est aux États-Unis qu'il a fait parler de lui. John Dillinger est un braqueur hors pair, devenu l'ennemi public numéro un du pays. Et c'est Johnny Depp qui lui a redonné vie. Je vous raconterai le destin de John Dillinger, qui est digne d'un film. Bon, ça tombe bien.
Oui, c'est le thème.
Quant à vous, Mathieu, vous nous raconterez la vie d'un garçon dont l'histoire est si incroyable qu'elle aussi a inspiré Hollywood.
Elle n'a pas inspiré Hollywood. Hollywood, en l'occurrence Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, s'est déchiré pour décrocher aux enchères les droits de son histoire. C'est DiCaprio qui a finalement gagné. Le film, vous le connaissez tous, c'est le Loup de Wall Street. Tous ces dollars, toute cette drogue, toutes ces prostituées, vous pensiez que c'était inspiré de la vie de David Castello-Lopez? Eh bien non. Eh bien non, c'est inspiré de la vie d'un trader véreux nommé Jordan Belfort. Je vous raconte l'histoire de ce Madoff sexy.
Et avec nous, comme chaque jour, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, c'est Clémentine Portier-Keltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et là, je vous entraîne dans une histoire liée à Autant en emporte le vent, car je sais que c'est un des films préférés de Mathieu Noël. Hein. Vous, Stéphane, c'est le Titanic. Mathieu, c'est Autant en emporte le vent. Donc vous savez, dans Autant en emporte
vous
le vent, il y a,
si bien.
Oui, là, n'est-ce pas, il y a deux héros masculins, Red Butler, Clark Gable, super viril, voyou, etc. Et puis Ashley Wilde, l'ami d'enfance de Scarlett O'Hara.
Qui était marié à Mélanie.
Alors c'est ça, alors elle est amoureuse de lui. Alors,
bref,
et puis c'est un peu le gendre idéal, gars-là, un peu lisse, propre, interprété par Leslie Howard. Et bien figurez-vous que dans la vraie vie, Leslie Howard fut un vrai héros de guerre dont le parcours aurait bien mérité un film, alors que lui interprétait des rôles dans d'autres films. Comme quoi, il ne faut pas toujours se fier aux apparences, elles sont parfois trompeuses, et je trouve que c'est un de vos travers majeurs.
Ça attaque d'emblée. Puis Stéphane, face à Clémentine, avec ce tandem si complice, si truculent, on peut, je crois, parler d'émission dans l'émission.
Quand même, dans rougail et saucisse, il y a le mot saucisse.
Ceci dit, dans fromage de tête, il y a le mot fromage.
C'est vrai.
Et
il y a tête.
Ils sont dans leur monde, tous les deux. Et c'est comme ça, des dialogues assez étonnants. David Castello-Lopez est avec nous pour nous raconter l'origine de quelque chose qui fait partie de notre quotidien.
Oui,
ça,
qu'il a changé.
Qu'il a changé, c'est Nespresso.
C'est Nespresso, c'est capsule. Avant, il fallait aller au bistrot pour avoir du café comme ça. Et ben maintenant, plus. Et c'est grâce à Nespresso, je vous dirai depuis quand ça existe.
Et maintenant, ils ont beaucoup de concurrents.
Oui. Ça les rend très tristes, d'ailleurs.
Et puis Olivier Bouls. Olivier Bouls, vous avez, il aime ce qui se mange et ce qui se boit aussi.
Aujourd'hui, exceptionnellement, pas de recette, mais la France commence petit à petit à se préparer pour les vendanges 2021. Le raisin est là.
Mais toi,
il va bientôt être ramassé. Et je vais en profiter pour vous raconter l'histoire du plus célèbre de tous les classements viticoles français. Le fameux classement de 1855 qui régit les vins du Médoc et de Sauternes.
Vous allez juste nous l'expliquer ou vous allez batailler un petit peu en nous disant qu'il faudrait qu'il soit révisé, etc.
On en parlera, mais vous voulez peut-être aussi goûter quelques expressions de ce classement.
Vous avez apporté quelques grands crus?
Oui, bien sûr.
Il n'y a qu'une seule fois où ça a été vrai, je crois, en 227 émissions.
C'est scandaleux. Alors, évidemment, tous vos rendez-vous habituels vous attendent, à commencer par Bern to be Alive, la perle des quiz. Mais d'abord, ouvrons cette émission avec l'histoire très choquante pour Stéphane, une religieuse qui était aussi lesbienne. Stéphane s'asperge d'eau bénite et nous raconte la folle vie de Benedetta Carlini, la nonne qui a tout de l'héroïne de cinéma.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Cannes, le 9 juillet dernier. Au troisième jour du festival, le nouveau film du réalisateur néerlandais Paul Verhoeven embrase la croisette. Dans Benedetta, Il plonge le spectateur dans la Toscane du XVIIe siècle et raconte l'histoire sulfureuse d'une nonne interprétée par Virginie Efira. Au couvent italien de Pescia, la sœur Benedetta est en proie à des visions mystiques. Mais la nuit venue, dans l'ombre de sa cellule, elle est dévorée par la passion de sa fille qui la lie à la jeune sœur Bartholoméa.
C'est Jésus qui m'a fait ça.
Les stigmates.
Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur.
Santa Benedetta.
Benedetta.
Vous me trouvez trop prompt à croire à ce miracle ?
Je pense que vous n'y croyez pas du tout.
Film scandaleux, dérangeant et provocateur, Benedetta ne laisse personne indifférent. Mais derrière la fiction de Verhoeven se cache l'histoire vraie et non moins sulfureuse d'une nonne condamnée pour pratiques impudiques. Cette histoire, c'est l'historienne américaine Judith Sieg Brown qui l'a exhumée en 1978. Cette année-là, elle parcourt les archives d'État de Florence et tombe sur un dossier jamais ouvert. Les documents qu'il contient permettent de retracer la vie et le procès d'une religieuse toscane. Son nom, Benedetta Carlini. L'américaine publie un livre « Sœur Benedetta entre sainte et lesbienne ». Et voilà ce qu'elle nous raconte. Benedetta Carlini naît en 1590 dans le village perché de Vellano, au cœur des montagnes toscanes. Mais alors que sa mère ressent les premières douleurs de l'accouchement, les choses tournent mal. On annonce à Giuliano Carlini que la mère et l'enfant pourraient ne pas y survivre. L'homme est très pieux, il en appelle à la bonté divine et fait une promesse à Dieu. Si son épouse et leur nourrisson sont épargnés, l'enfant à naître vouera son existence au Seigneur. Quand Benedetta pousse son premier cri, sa vie est toute tracée. Elle deviendra religieuse. À l'âge de 9 ans, par une belle journée de printemps, Benedetta embrasse le destin qui lui était promis. Elle intègre le couvent des Théatines, situé en contrebas dans le village voisin de Pescia. La fillette revêt la coiffe blanche et grandit entre prières, jeûnes et travaux divers, jusqu'au jour où, âgée de 23 ans, Benedetta demande à s'entretenir avec la mère supérieure. Elle veut lui révéler des faits qui pourraient bouleverser l'ordre du couvent. La jeune sœur a des visions mystiques. Un matin, comme tous les autres, alors qu'elle s'astreignait à la prière avec ses sœurs, Benedetta s'est trouvée d'un coup au milieu d'un magnifique jardin regorgeant de fruits juteux et d'arbres fleuris. Non loin d'elle, une fontaine libérait une eau délicatement parfumée et juste à côté se trouvait un bel ange qui lui a soufflé quelques mots. Devant la mine ébahie de la mère supérieure, Benedetta poursuit ses révélations. Des visions, elle en a eu d'autres. Plongée dans ses travaux quotidiens, voilà qu'elle s'est vue entourée d'une foule d'animaux sauvages, des lions, des scorpions et des sangliers qui menaçaient de lui faire du mal. Ces bêtes enragées, c'était l'incarnation du démon. Mais fort heureusement, continue Benedetta, un homme est venu la tirer de leurs griffes acérées. Cet homme, c'était lui, Jésus-Christ. Benedetta serait-elle en train d'affabuler pour attirer l'attention des sœurs? Si les visions sont réelles, sont-elles d'origine céleste ou bien est-ce le mal qui ronge la jeune femme? Bientôt, les religieuses sont témoins des états de transe dans lesquels Benedetta semble plonger à l'heure de la prière. Elle gesticule, prononce des phrases incompréhensibles et les visions continuent. Elle s'accompagne peu à peu de douleurs atroces qui clouent au lit la pauvre religieuse. La nuit, quand les hallucinations la prennent, elle prétend que de jeunes garçons la poursuivent en brandissant des épées et des chaînes. Alors Benedetta hurle « au secours !» brisant la tranquillité du couvent et terrifiant les nonnes. Cette situation inquiète la mère supérieure. Décision est prise que l'on assignera à Benedetta une compagne de cellule qui veillera sur elle. C'est la toute jeune Bartolomea Crivelli qui est choisie. Et voilà qu'une nuit, Mea, c'est son surnom, est réveillée par Benedetta. Dans la pénombre, elle la voit s'agiter, parler à quelqu'un. Mea comprend que la sœur est en train de s'adresser au Christ et qu'il lui répond. Bientôt, Benedetta pousse des cris de douleur qui glacent le sang de sa compagne. Mais aux premières heures du jour, on annonce un grand miracle. Les mains, les pieds, les côtes ensanglantées de Benedetta portent les stigmates de Jésus-Christ. Elle souffre des mêmes blessures que lui, celles qu'il a reçues sur la croix. Cette fois-ci, il n'y a plus de doute. Benedetta est l'élue de Dieu et par là même la vedette du petit couvent de Pescia. D'ailleurs, est-ce grâce à elle que la petite ville a été épargnée par l'épidémie de peste bubonique qui ravage l'Italie? L'élu fait figure de protection et elle force le respect. À 30 ans, Benedetta est désignée abbesse du couvent. Elle s'exprime publiquement sur les questions religieuses, un fait extrêmement rare pour les femmes à qui l'on impose le silence en ce domaine. Mais cette influence grandissante lui joue bientôt des tours. On ne voit jamais d'un bon œil qu'une femme établisse une connexion immédiate avec le ciel sans aucun médiateur masculin. Une enquête est diligentée à son encontre et la voilà démise de ses fonctions d'abbesse jusqu'à nouvel ordre. Jésus l'a-t-il vraiment désigné comme son plus grand serviteur sur terre, comme elle l'affirme à longueur de journée? Les autorités ecclésiastiques veulent en avoir le cœur net. Le prévôt Seiki est nommé investigateur en chef. Pendant 4 mois, il mène des interrogatoires, recueille le témoignage des théatines, demande à examiner les blessures de Benedetta. Mais aucun indice ne lui permet de remettre en doute sa parole. Benedetta conserve sa toute-puissance. Pourtant, de nouveaux éléments viendront bientôt décrédibiliser la parole de la nonne. Il y a de l'eau dans le gaz au couvent de Pescia. L'abbesse Benedetta est de plus en plus autoritaire. Elle édicte des règles strictes et multiplie les avertissements contre certaines sœurs trop ingrates et vaniteuses à son goût. Et Benedetta les met en garde. Si les sœurs doivent être punies, elle n'a qu'à implorer Jésus et gare à elle. Tout cela suscite l'hostilité des théatines qui affirment qu'elles feront élire une nouvelle abbesse. Au-delà des murs du couvent, la toute-puissance de Benedetta déplaît toujours plus aux autorités ecclésiastiques. Les questionnements reprennent sur l'origine de ces visions, si bien qu'on décide de mener une seconde enquête. Tour à tour, les religieuses de Pescia sont interrogées une nouvelle fois. Et quand vient le tour de la jeune Bartholoméa qui partage sa cellule, les enquêteurs tombent des nues. Ces révélations, personne ne s'y attendait. La jeune sœur raconte que l'abbesse la force à faire certaines choses. Des choses impudiques. Benedetta aurait violé son vœu de chasteté. Depuis 2 ans, à la nuit tombée, Benedetta attire Bartholoméa dans sa couche.
Dites-nous en plus, Stéphane.
Non, je ne peux pas. Pour s'adonner à des plaisirs impurs et lui dire des mots d'amour. Et ce n'est pas tout. La journée, quand l'abbesse attire la sœur dans son cabinet de travail en prétextant qu'elle lui apprendra à lire, elle satisfait en fait ses mêmes désirs saphiques. Face à l'ampleur des révélations, même le scribe en perd ses moyens. Son écriture, si nette d'habitude, est totalement illisible. Il doit s'y reprendre à plusieurs fois pour retranscrire les obscénités que la jeune sœur relate. Confronté aux accusations qui pleuvent, Benedetta nie en bloc. Elle assure que ce n'est pas elle qui pervertit la jeune Méa. Non, c'est l'ange Splenditello qui prend possession de son corps pour se livrer à la luxure. Splenditello, c'est l'ange gardien que le Christ lui a attribué. Un très beau garçon qui, dit-elle, lui caresse le corps avec des fleurs si elle agit conformément à la volonté de Jésus, mais la pique avec des épines en cas d'égarement. À l'issue de l'enquête, Benedetta Carlini est emprisonnée dans les murs du couvent. Pendant 35 ans, elle est tenue à l'écart des autres religieuses et s'éteint à l'âge de 71 ans, terrassée par la maladie. Son histoire aurait pu finir dans les oubliettes de l'histoire, mais le cinéma et le talent de Virginie Efira qui l'interprète en a heureusement décidé autrement.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Benedetta Carlini, nous sommes avec l'historienne Marie-Élisabeth Hainaut. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Marie-Élisabeth Hainaut, vous êtes historienne à l'Université de Liège, spécialiste des religieuses à l'époque moderne. Comment votre œil d'historienne a-t-il perçu le film de Paul Verhoeven?
Alors certains éléments évidemment sont bien mis en scène, hein, et les acteurs sont à la fois très bons, mais peut-être aurait-il pu être guidé autrement pour approfondir la psychologie complexe de ces personnages. Alors, on n'y verra jamais clair. Hein. Là, on ne peut pas nous trancher, on ne peut pas savoir ce qui s'est réellement passé, mais il me semble que le dossier d'archives, qui est en partie révélé par l'historienne Judith Brown, permet quand même d'enrichir davantage l'analyse du personnage, d'aller plus loin, et d'aller plus loin notamment dans la mise en scène de ces figures féminines, de la supérieure, qui est très très joliment interprétée par Charlotte Rampling, que j'aime beaucoup, mais en même temps, elle est un peu décalée, et Virginie Efira, que j'aime beaucoup aussi, et qui est extrêmement belle. Le costume lui va à ravir et met en évidence tous ses charmes, mais le costume d'une nonne n'était pas fait pour mettre en valeur ses charmes.
Bien au contraire.
Donc il y a un peu de décalage. Alors tout ça ne serait pas très grave, mais ce qui me semble avoir été vraiment maltraitée, c'est évidemment extrêmement difficile, mais c'est justement le registre de ces expériences mystiques. C'est un peu grotesque. Moi, ça m'a fait rire. Alors, si c'est pour qu'on s'amuse, tant mieux.
Hein. Mais c'est pas une comédie, normalement. Oui, effectivement.
Mais a priori, bon, on aurait pu attendre quand même un peu plus de subtilité, surtout que le propre de ces femmes mystiques, c'est à la fois de dire qu'elles voient, qu'elles entendent, qu'elles sentent, elles vivent tout cela avec leur corps, et en même temps, c'est pas tout à fait la même chose de voir avec les yeux physiques et voir ce qu'elles disent avec les yeux de l'âme. Et donc, il vaudrait mieux le suggérer que de les représenter de manière un peu plate et un peu... Voilà. Ce qui m'a aussi un peu heurtée, mais je ne suis pas vraiment spécialiste de l'homosexualité féminine, mais il m'a semblé quand même que le traitement de cette relation avec Bartholoméa, je ne vois pas très bien ce que ces images volontairement choquantes et scandaleuses, moi qui ne me choque pas spécialement, mais enfin qui sont destinées à choquer quand même, à perturber, ce que ça apporte vraiment, toutes ces scènes dans la présentation de ce problème, de cette
problématique,
cette relation. Voilà.
Alors, le film de Paul Verhoeven dont on a parlé se concentre beaucoup, beaucoup trop peut-être, sur la passion charnelle qui lie Benedetta à une jeune sœur de son couvent. Mais à l'époque, comment on perçoit les relations sexuelles entre femmes et quels risques aussi encourent les femmes qui se rendent coupables de ce type de péché ?
Alors le problème, c'est que on les perçoit et on les conçoit d'abord très difficilement et du coup on les énonce encore plus difficilement et du coup on n'a pas, nous les historiens, énormément de sources pour l'évoquer. Pour ce qui est des femmes, vu leur conception et surtout chez les ecclésiastiques, leur conception du corps féminin et du rôle de la femme dans la sexualité, on a l'impression finalement que c'est quand même moins grave parce que il n'y a pas acte sexuel à proprement parler, puisqu'il n'y a pas pénétration vraiment possible, et il n'y a pas, selon eux, émission de semences, et ce qui caractérise l'acte sexuel. Alors pour eux, finalement, bon ben, c'est grave parce que c'est un manquement à la chasteté, donc forcément, même de vous serrer la main à l'intérieur d'un couvent, c'est déjà une chose grave. Mais donc c'est grave, mais ce n'est pas comparable à ce qui se passe entre deux hommes, et notamment entre deux moines ou deux ecclésiastiques. Mais la plupart du temps, on a extrêmement peu d'exemples de femmes qui étaient condamnées à mort pour cela, et à l'intérieur de ça, encore moins de religieuses qui l'aient été.
J'avais une question tout de même. J'ai raconté que Benedetta entre très jeune au couvent, puisqu'elle n'a que 9 ans. C'était courant à l'époque, on mettait déjà les jeunes filles à 9 ans au couvent ?
Alors oui, disons qu'on est à une période charnière au moment de la vie de Benedetta. Jusqu'alors, c'était une pratique assez courante. Mais on ne sait pas toujours quel est le statut qui est réservé à ces petites filles. Mais à partir du milieu du XVIe siècle, et surtout après le Concile de Trente qui se termine en 1563, il y a une législation très sévère qui empêche les professions solennelles, de l'engagement définitif, avant l'âge de 16 ans, pour lutter justement contre les vocations forcées, les politiques matrimoniales et familiales qui soit envoient les filles au mariage, soit les envoient au couvent. Donc il y a une nécessité du respect du consentement individuel pour l'engagement dans ce genre de voie. Mais tout cela, ça c'est les décrets, et puis après cela, il y a l'observance de ces décrets, et donc il demeure quand même toujours des pratiques que beaucoup d'ecclésiastiques condamnent, mais de voir des toutes petites filles entrer au couvent.
Stéphane le racontait dans le récit tout à l'heure, et c'était intéressant, c'est que les autorités ecclésiastiques s'inquiètent très vite de l'influence grandissante de Benedetta. Qu'est-ce qui les dérange tant, finalement ?
Mais ce qui les dérange beaucoup, c'est finalement d'abord la publicité de ces comportements, ce qui risque quand même, d'une part, de nuire à la réputation de l'institution et de susciter les quolibets, les moqueries, et notamment des protestants. Donc, ils ont très peur des libertés qu'elles peuvent prendre, de leur absence de soumission, De leur, ils les considèrent aussi, puisqu'elles sont femmes, comme finalement pas suffisamment formées. Oui, aussi, ayant une propension à l'effervescence inutile, etc. Donc, il y a toute une série de stéréotypes liés à l'image de la femme qui les inquiètent et qui vraiment les rend très attentifs. Alors, quand parfois ils ont bien expertisé les choses et qu'ils estiment que ça vaut le coup, on va soutenir la personne et diffuser son œuvre, comme par exemple la grande figure de Thérèse d'Avila. Mais à côté de ça, il y en a des quantités qui sont et qui peuvent être inquiétantes et dangereuses.
Et donc, quelles ont été les conclusions de la deuxième enquête sur l'authenticité des visions de Benedetta ?
Mais finalement, les conclusions de cette enquête, on met le doigt sur des formes de manipulation, de supercherie, de comédie. Et donc, elle est accusée de simulation. Hein, et de manipulation. Mais évidemment, le témoignage de Bartholoméa va être l'espèce de cerise sur le gâteau et va les convaincre que cette femme est évidemment dangereuse parce qu'aussi elle a manifesté des abus d'autorité en se fondant sur l'autorité que Dieu ou le Christ lui conférait. Et donc là, ils estiment qu'elle est finalement dangereuse non seulement pour elle-même, pour le groupe et même pour la foule extérieure qui risque d'être abusée par une fausse mystique, une fausse prophétesse.
Et en tant qu'historienne, vous la jugez coupable ou au contraire, vous lui donnez l'absolution à Bédé?
Mais écoutez, moi je pense que c'est très complexe et qu'à mon avis, au départ, elle est certainement sincère. Mais elle est, disons, dans une catégorie de mystique moyenne sur le plan de l'intelligence des phénomènes. Et donc, moi, je crois qu'après, elle a été un peu victime du succès qu'elle remportait auprès de ceux qui l'examinaient, qui la regardaient. Et après, évidemment, le goût du pouvoir aidant, parce que...
Elle a pris la grosse tête, c'est tout.
Voilà, absolument. Parce qu'en fait, c'est que le film ne met pas surtout en scène, parce qu'on la voit surtout en extase mystique ou en extase érotique. Mais entre-temps, elle bosse aussi, cette abbesse. Bon. Elle a un domaine à gérer.
Oui. Elle est abbesse.
Et là, elle a peut-être abusé de son autorité. Et ça, manifestement, ça a dû aussi... susciter pas mal de
jalousie,
de récrimination,
exactement.
De jalousie. Voilà.
Merci beaucoup, merci Marie-Elisabeth Hainaut, nous avoir plongé avec passion dans les couvents italiens du XVIIe siècle. Merci à vous.
Merci aussi.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Tous les jours des 16 heures, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires dont Hollywood rêve d'acheter des droits. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, on reste dans le cinéma avec un héros bien réel. Son nom, Leslie Howard. Plus héroïque dans la vie qu'à l'écran, apparemment.
Oui, mais vous voyez la tête qu'il a.
Ah,
qu'est-ce
oui,
qu'il est
Ashley.
Beau, cet homme. Alors, il était né le 3 avril 1893 à Forest Hill, à Londres. Oui, cet homme, c'est par excellence l'interprète du gentleman anglais. Il est vraiment beau, blond, les cheveux un peu crantés, comme on les porte à l'époque. Très, très élégant. Il sort d'un collège privé londonien. Enfin, vraiment, l'image d'Épinal ou la caricature. Mais là où il commence, Leslie Howard à sortir de l'archétype, c'est qu'il appartient à une famille d'émigrants juifs de Hongrie. Alors ce jeune homme, comme tous les jeunes garçons de sa génération, il est mobilisé pendant la guerre de 14 dans un régiment de cavalerie, mais très vite il se trouve sous les bombardements et il est victime d'un choc traumatique juste avant le début de la bataille de la Somme en 1916. Donc il est hospitalisé et quand il sort de l'hôpital, il n'est pas remobilisé, on lui conseille de reprendre les cours d'art dramatique qu'il avait entamés avant-guerre, sous forme de thérapie en fait. Dans les années 20, début de succès à Broadway, mais en fait c'est surtout un artiste des années 30, alors là il devient à Hollywood le modèle par excellence du gentleman anglais, insouciant, élégant, très à l'aise. Et alors il a joué notamment dans son film après à part, Autant en emporte le vent, le plus connu, c'est Le Mouron Rouge de Scarlett Pimpernel, un film de 34, et dans lequel il partage la vedette avec Bette Davis dans The Petrified Forest. Voilà, ça c'est vraiment les deux films qu'il fait à Hollywood dans les années 30. Alors, il était caricatural d'une certaine manière, parce que oui, gentleman anglais, il l'était. Il possédait une ferme du 16e dans le Surrey. Il aimait la chasse à cour. Il coche un peu toutes les cases. Mais, et c'est vraiment un personnage de Downton Abbey, cet homme. Et il a un succès fou avec les femmes. Alors, il avouait volontiers que s'il ne poursuivait pas les femmes, il ne se souciait pas toujours de s'enfuir. Je suis sûr que vous, c'est votre cas aussi. C'est beau, ça.
Hein.
Donc,
ça.
Il a eu une platée de ravissantes maîtresses, dont les ravissantes actrices Norma Shearer et Merle Oberon. Et bon, son épouse Ruth a supporté très stoïquement toutes ces incartades.
C'est fou dans l'histoire, toutes ces femmes qui ont supporté les incartades
de
leur mari.
Oui, mais voilà, mais parce que souvent, elles n'étaient pas autonomes financièrement. Donc, c'est vrai que divorcer, c'était compliqué. Hein. Ça l'était encore plus à l'époque. Hein. Alors, cet homme-là, déjà, anecdote vraiment étonnante. Comme il vivait à Los Angeles au moment de la guerre, il aurait très bien pu passer toute la guerre aux États-Unis. Et il a décidé de retourner en Grande-Bretagne pour faire son devoir. Et pour retourner en Grande-Bretagne, il a dû renoncer à sa part dans les bénéfices faramineux d'autant en emporte le vent. Et oui, oui, figurez-vous qu'à l'époque, les citoyens britanniques ne pouvaient pas revenir au Royaume-Uni s'ils détenaient des intérêts étrangers. Et donc, lui avait des intérêts dans cette production. Donc, il a renoncé à ses royalties sur Autant en emporte le vent. Chapeau quand même. Hein. Donc, il a offert ses services au gouvernement britannique qui, tout naturellement, lui a confié la mission de réaliser des émissions de propagande à l'intention des États-Unis pour les inciter à entrer en guerre du côté des alliés. Et là, il commence à se livrer un travail de propagande plus discret. Il agit comme pseudo-ambassadeur culturel britannique au Portugal. Et là, il est censé avoir une mission secrète pour convaincre Franco de ne pas entrer en guerre. Et son avion, l'avion qui devait le ramener à Bristol, a été dézingué par l'aviation allemande. Oui, parce qu'on ne sait pas s'ils ont cru que l'agent de Howard ressemblait beaucoup à Churchill. Il était aussi rondouillard, il fumait le cigare. Alors, est-ce que c'est pour ça que l'avion a été dézingué? Est-ce que c'est parce que, en fait, les services secrets anglais savaient que cet avion allait être dézingué, mais n'ont pas pu le prévenir parce que ça aurait mis la puce à l'oreille aux Allemands qui auraient découvert que Enigma avait été décrypté? Aujourd'hui encore, tous les documents liés à cette affaire sont classés confidentiels. Donc, on ne sait pas exactement pourquoi l'avion d'Howard a été abattu alors qu'il allait revenir vers Bristol. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est qu'à bord de cet avion, il y avait un petit gamin de 7 ans avec son accompagnatrice, et comme Howard voulait rentrer en Angleterre très vite, il a usé de sa notoriété, hein, il s'est fait un peu pistonner, il a tiré des ficelles pour pouvoir être à bord de cet avion, et donc il est mort, hein, disparu en mer, mais ce petit garçon qui s'appelait Derek Partridge, lui, il a maintenant 86 ans, il est toujours en vie, et ce jour-là, en usant de piston pour pouvoir prendre l'avion, Howard lui a bien sauvé la vie. Alors la prochaine fois que vous regarderez Autant en emporte le vent, cessez de vous dire, mesdames, je m'adresse surtout à vous, que décidément, le bel Ashley est un peu palichon par rapport à Red Butler. Bon, même si Clark Gable, hein, a fait lui aussi une guerre très courageuse. Il a été mitrailleur dans la RAF, la RAF, entre 42 et 45. Mais enfin, ceci est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois, parce que je sais que vous aimez tellement Autant n'emporte le vent que je n'ai pas fini d'épuiser le filon.
Tous les personnages.
Merci beaucoup, Clémentine.
Merci beaucoup, Clémentine. Qui va désinguer qui dans le quiz? Eh bien, restez avec nous pour le savoir.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Quand vient l'heure du quiz, Stéphane est tout chose. Il blêmit, il frémit devant Clémentine.
J'ai envie de crier, résiste. Ses lèvres dont son âme est perdue.
Alors, t'en fais les sons. Moins un point pour Clémentine pour ce quiz. Vous commencez à moins un, Stéphane, zéro. Stéphane, première question. C'est moi qui décide. Question numéro un.
Je suis obligé de prendre un peu d'avance.
Pierre-François Lassner a marqué le début du 19e siècle. Criminel romantique, dandy du crime, cet escroc assassin a rédigé ses mémoires en prison alors qu'il attendait la mort. Lors de son ultime procès, il a fait preuve d'une grande décontraction. Il a même réclamé la guillotine un samedi soir car il disait détester les dimanches. Vrai ou faux, Stéphane?
Ah, ça serait pas mal, ça. Je sais, c'est...
Moi, je le sais, mais je vous dirai pas. Ça vous apprendra à vous à jubiler quand on m'enlève un point d'emblée.
Pas trop d'informations. Est-ce que... il a eu cette coquetterie, ce trait d'esprit plutôt, de réclamer la guillotine un samedi soir car il détestait les dimanches. Vrai ou
faux? Il n'a pas été exaucé parce qu'on ne guillotine pas le dimanche.
Ah!
Normalement, on ne guillotine pas le dimanche.
Mais là, il aurait demandé d'être guillotiné un samedi soir.
Écoutez,
c'est vrai ou c'est faux, hein? Il n'y a pas trop d'autres alternatives.
Écoutez, avant d'avoir la fiche entre les mains, vous ne saviez pas non plus. Il faut remettre les choses à leur juste place, cher Mathieu. Mais... ça pourrait être bien, quoi, de dire oui, mais une sorte de un côté bravache comme ça de dire
bravache et anticlérical peut-être ouais. Mais
ce serait assez chic.
Donc vous répondez.
Mais moi je dirais oui, mais ça me plairait bien de dire ça.
Vous avez perdu.
Vous restez à zéro.
Moi je crois que c'est
zéro,
pas là-dessus. Il y a eu des dernières volontés assez étranges, mais qui n'étaient pas ça, me semble-t-il.
Il y a ça. Alors, il n'a pas réclamé à être guillotiné un samedi soir parce qu'il n'aimait pas le dimanche, mais quand on lui a dit que ça allait tomber un lundi, il a répondu « la semaine commence mal ». Pierre-François Lassner a souvent été évoqué dans la littérature, notamment par Foucault, Debord, René Char, Victor Hugo, Baudelaire, Stendhal et même Dostoïevski, excusez du peu. La légende dit aussi qu'au moment de son exécution, la lame s'est enrayée. Lors du deuxième essai, il a demandé à se mettre sur le dos pour voir cette lame arriver. Question numéro 2. C'est pas bien de se marier avec son cousin. Au cours de l'histoire, la législation et la position de l'Église a varié. Ainsi, au début du Moyen-Âge, on était beaucoup plus rigide sur ces questions qu'au début du XXe siècle. Est-ce vrai ou est-ce faux ?
Oui, c'est vrai, naturellement. Il y avait aussi ce qu'on appelait la parenté spirituelle. Oui. C'est-à-dire que si on était... on pouvait être cousin très lointain, et ça n'empêchait pas forcément de se marier, mais en revanche...
Il fallait une dérogation, de toute façon.
Il fallait de toute façon une dispense du pape, mais aussi si on avait un lien spirituel, c'est-à-dire la marraine d'un bébé ne pouvait pas envisager de se marier avec... Ah oui. Donc je réponds non, on était beaucoup plus souple en fait.
Donc vous répondez ?
C'est faux.
C'est faux.
C'est faux qu'on était plus...
Vous avez perdu.
Oh, quel retournement de situation délicieux. Au début du Moyen-Âge, il est interdit de se marier avec une personne de sa famille jusqu'au 7e degré. Donc c'est très contraignant. En 1917, c'est juste les cousins germains. Parce qu'il faut bien repeupler la France.
Non,
donc en fait, on est allé vers plus de laxisme.
N'importe quoi. Excusez-moi, cher monsieur, mais Marie-Thérèse d'Autriche et Louis XIV sont cousins et ils ont les mêmes arrière-grands-parents.
Ils avaient des dispenses.
Ils avaient des dispenses.
Mais c'était les rois, mais pas les gens du commun.
Il fallait préciser pour les gens.
Non,
il fallait préciser pour les gens du commun. Là,
je n'ai rien à préciser.
Je m'inscris en faux.
Mais vous avez quand même perdu.
Il fallait préciser, c'est pas juste.
Numéro 3. Jeanne d'Arc a appris sa condamnation dans un cimetière. Vrai ou faux ?
Elle n'était pas au tribunal.
Je ne peux pas vous donner de détails si je vous pose cette question, Stéphane. C'est pas moi. Peut-être qu'elle y était, ça participe de la question. Est-ce que Jeanne d'Arc a appris sa condamnation dans un cimetière ?
Vrai ou faux ? A priori, elle a appris sa condamnation au tribunal. Donc si la question est ainsi posée, c'est pas innocent. Vous voyez, c'est que... Mmh.
Est-ce que la peine a pu être prononcée alors à un moment où elle était dehors ? Puisque c'était probablement dans...
Écoutez, je vais dire oui.
Même vous dites si... oui un peu comme ça.
Oui,
un peu
au hasard, bien sûr.
Vous avez gagné.
Et c'est en répondant au hasard que vous répondez le mieux, Stéphane. Mais c'est une bonne réponse. Oui. Un partout. La justice était souvent rendue dans les cimetières au Moyen-Âge. Jeanne a été convoquée le 24 mai 1431 au cimetière de Saint-Ouen pour entendre sa condamnation.
Quoi ? D'abord, j'ai pas un point, là. Vous m'aviez déjà mise à zéro d'emblée. En plus, j'ai mal répondu.
C'est juste un à moins un. Effectivement, je me suis trompé. 1 pour Stéphane, moins 1 pour Clémentine. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Question tout à fait décisive, puisque je déciderai en temps et en heure du nombre de points qui vous seront attribués. Dans les rites funéraires du monde grec, il existait une coutume étonnante qui consistait à fermer tous les orifices des morts pour que l'âme ne parte pas du corps avant d'arriver au monde des morts. Vrai ou faux ?
Oui, c'est des bouchons.
Stéphane, n'aidez pas votre concurrente.
Alors sinon, est-ce qu'on bouchait par ailleurs les autres orifices ? Oui, pourquoi pas. Je dirais...
2/3.
Ouais, je dirais faux parce que la bouche n'est pas réellement bouchée. On pose juste on met une pièce dans la bouche, donc la bouche n'est pas bouchée.
La bouche n'est pas bouchée, donc c'est ?
C'est faux.
C'est faux ?
Vous avez...
Deux points, c'est la remontada. Faux. Il existait une coutume.
La remontada made in France.
Vous dites que j'invente
parce qu'elle a rajouté le Styx.
Elle a rajouté l'anecdote du Styx, qui était ma réponse. Il fallait mettre une pièce dans la bouche du défunt pour payer la traversée du Styx qui conduisait au monde des morts. Magnifique réponse qui nous emmène à la question 5. Question de rapidité, partons pour New York.
Un jour j'irai à New York.
Du 12 au 14 octobre 2018, il s'est passé quelque chose qui n'était jamais arrivé en 24 ans à New York. Quoi ? Trois propositions. Il n'y a pas eu de fusillade, il n'y a pas eu de hot dog mangé, il n'y a pas eu de comédie musicale de jouer.
Trois.
Un, deux.
Il n'y a pas eu de fusillade. Oh, c'est Clémentine qui renverse le quiz, Stéphane. Elle a renversé le quiz.
Il n'y a pas eu de hot dog.
Oh, aucune fusillade.
C'est vrai. Ça, c'est une vraie question d'histoire. Vous êtes la championne de l'histoire.
C'est peut-être la pire question. La question la plus éloignée de toute forme d'histoire, quelle
Écoutez,
qu'elle soit.
Écoutez, pendant ces 24 prochaines années, je décide, il n'y aura plus de hot dog à New York.
Bravo quand même. J'ai envie de dire bravo quand même,
oui,
Clémentine.
Oh non, oui.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, un numéro palpitant aujourd'hui, puisqu'on réunit trois personnages dont la vie est digne d'un film. Après la nonne Benedetta Carlini, je vous présente John Dillinger, un braqueur d'exception dont la fin, hélas, pour lui, ne fait pas exception. Il a été descendu par les flics.
Mais ne spoilez pas, Stéphane, vous vous auto-divulgâchez. Heureusement, je suis là pour entretenir le suspense quant à notre troisième personnage dont la vie est un film. Un indice quand même, DiCaprio, Wall Street.
Le loup de Wall Street. Vous nous parlez du personnage bien réel, le trader fou Jordan Belfort qui a inspiré le film de Scorsese.
Ok, vous avez trouvé. Mais est-il mort ou vivant? Libre ou en prison? La réponse vers 5h20.
Sans oublier nos célèbres chroniqueurs.
Oui, les Iguépus de l'histoire nous ont rejoints.
David Castello-Lopez, vous nous racontez
les origines
d'une invention, en l'occurrence.
Tout à fait.
Le Nespresso.
Le Nespresso, à la fois les machines et les capsules, qui a un petit peu changé notre existence. Ah oui. Je vous dirai d'où elle vient.
Olivier Poulx est avec nous aussi, oui. Stéphane. Regardez.
Ah oui, on va parler d'un autre breuvage.
Oui, exactement. Oh, oui. On va rester dans le breuvage, mais je vais montrer que je peux monter fortement en qualité, parce qu'après ces gentilles petites capsules de Nespresso, moi je vais quand même vous parler de ce qui est le graal absolu en matière de vin, l'exception, l'excellence française.
Le dictat de 1855.
Voilà, le fameux classement de 1855, alors que la France débute ses vendanges. Je vous raconterai l'histoire de ce classement des vins du Médoc et de Sauternes.
Vous avez vu comme ses yeux brillent quand il parle du vin, plus que pour les blettes.
Ah oui, et plus que pour le Nespresso, ça vous le confirme.
Plus. Enfin, après un bon Nespresso, ce sera l'heure du digestif pour David Castello-Lopez. Son slogan, la défaite, what else? Ce sera la lutte finale, notre quiz fratricide. Mais d'abord, partons à la rencontre de notre deuxième personnage dont la vie est vraiment digne d'un film. Stéphane Bern nous raconte l'histoire vraie d'un braqueur hors pair que Johnny Depp a incarné au cinéma, John Dillinger. Sortez le pop-corn, on va se régaler.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes le 10 mai 1933 dans l'état d'Indiana en Amérique. Les immenses grilles de la prison de Michigan City viennent de se refermer. Dehors, sous l'œil des sentinelles perchées sur un mirador, John Dillinger, 29 ans, se tient debout. Le matricule 14395 a le visage émacié, le front dégarni et plusieurs dents en moins. Mais il est libre, enfin. Cela faisait 10 ans que ce fils d'épicier natif d'Indianapolis croupissait derrière les barreaux pour une petite histoire de vol. John Dillinger est libre, mais le pays qu'il redécouvre n'a rien de celui qu'il avait quitté. Depuis son incarcération, le krach de 1929 a plongé l'Amérique dans la Grande Dépression, une période de récession économique sans précédent. Des millions d'ouvriers ont perdu leur travail et vivent dans la misère. Le peuple crève de faim. Dans ce contexte, difficile pour Johnny de trouver un gagne-pain respectable et de se racheter une conduite. De toute façon, il a d'autres plans. En prison, il s'est fait pas mal d'amis. Des truands aguerris qui deviendront bientôt ses complices. Car John Dillinger est habité par la rage. Il veut déclarer la guerre au pouvoir à tous ces cols blancs corrompus qui ont eu le culot de le qualifier de hors-la-loi. Alors Johnny ne perd pas de temps. Dans les semaines qui suivent sa libération, il organise des casses dans plusieurs épiceries de la région, mais bientôt, il s'attaque à plus gros. Tout l'été, c'est la même scène qui se répète. Une Dodge bleue se garde discrètement non loin d'une banque et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, des hommes font irruption et pointent leurs revolvers sur les employés au cri de « Hold up !» Les mains en l'air, personne ne bouge. John Dillinger bondit derrière le comptoir, l'arme à la main. Il presse le caissier de transférer les fonds dans un sac. Et 2 minutes plus tard, s'échappe avec des dizaines de liasses de billets, montant du butin plusieurs milliers de dollars. Dans les bureaux de police, les shérifs s'arrachent les cheveux. Pas un jour ne passe sans que les journaux ne fassent leur une sur des affaires de braquage ou de kidnapping. Les autorités sont mises à mal. On pointe leur incapacité à mettre les gangsters sous les verrous. Car en cette période de dépression, Dillinger n'est pas le seul à avoir compris que le crime était la seule activité lucrative. Au niveau fédéral, on veut sévir. À la tête du Bureau of Investigation, l'ancêtre du FBI,
John Edgar Hoover prend les opérations en main. Il répertorie les criminels et établit une liste de bandits désignés ennemis publics. Dans les rues, on fait placarder les visages des bandits qui sont « wanted, dead or alive ». À ceux qui arrêteront les criminels recherchés, morts ou vifs, on promet une récompense. Mais pas de quoi effrayer Johnny. Il continue ses activités criminelles, se fait prendre, s'échappe dans un bain de sang et recommence encore et encore. En fuite perpétuelle, il braque des banques dans le Wisconsin, l'Iowa, le Dakota et d'autres États encore. Si bien que le jour de son 31e anniversaire, John Dillinger devient officiellement l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. La chasse à l'homme est lancée. Malgré le danger, il arpente toujours les rues de Chicago. Un mois plus tard, le regard dans l'ombre de son Borsalino. Ce soir-là, Johnny aurait bien besoin de se détendre. Alors, avec Polly, sa maîtresse du moment, et l'horlogeuse, une certaine Anna Sage, il s'octroie une soirée au cinéma. Nous sommes le 22 juillet 1934, il est 21h, et le trio s'engouffre dans le Biograph Theatre pour s'installer sereinement dans le creux des fauteuils rouges. À l'affiche ce soir, Manhattan Melodrama. Ce long métrage est de circonstance, puisque la superstar d'Hollywood, Clark Gable, y incarne Blackie, un gangster sans foi ni loi. Mais alors que Dillinger s'amuse de la situation en se croyant invincible, aux abords du cinéma, les hommes d'Edgar Hoover s'activent. Quelques jours plus tôt, le bureau a été contacté par une femme au fort accent d'Europe de l'Est. En échange d'un permis de séjour sur le sol américain, elle a promis de livrer des informations capitales sur l'homme le plus recherché du pays. Cette femme, c'est Anna Sage, la logeuse de Dillinger. Quand elle a vu se présenter chez elle un homme qui disait s'appeler Jimmy Lawrence, elle n'y a pas cru une seule seconde. Johnny a beau être passé sur le billard pour modifier son apparence, ses traits sont reconnaissables. Sous le coup d'un arrêté d'expulsion, Anna décide de rencarder les fédéraux. À 22h30, le trio sort du cinéma. Bras-dessus, Polly et Johnny ont le sourire aux lèvres. Anna, elle, avance anxieusement. Les G-Men sont prêts. Quand l'un d'eux allume un cigare, c'est le signal. En une fraction de seconde, John Dillinger est encerclé par une dizaine d'agents du FBI. Il dégaine le Colt 38 qu'il porte à la ceinture pour ouvrir le feu, mais c'est trop tard. Les policiers ont tiré plus vite. Touché par plusieurs balles, John Dillinger s'effondre sur le macadam. C'est dans une mare de sang que la vie de l'ennemi public numéro 1 s'achève ce jour de juillet 1934. Mais son destin rocambolesque en inspire plus d'un, à commencer par les cinéastes. 10 ans après la mort de John Dillinger, un premier biopic est réalisé aux États-Unis pour le plus grand plaisir des amateurs de polar. À ce jour, une demi-douzaine de films ont été consacrés au bandit le plus célèbre de la Grande Dépression. La dernière version en date est signée de Michael Mann. Dans Public Enemies, sorti en 2009, c'est Johnny Depp qui interprète le gangster le plus célèbre de la Grande Dépression.
Nous pourchassons des tueurs implacables.
J'ai une idée, monsieur le président, si on jouait à la roulette.
Cet argent est à vous, monsieur ?
Oui.
C'est la banque qu'on vient braquer, pas vous. Rangez-moi ça.
Tu sais que tout le pays pense que tu es un héros.
Ça devient dur de dévaliser des banques.
On prend trop de bon temps aujourd'hui pour penser à demain.
Ouais, pourtant tu devrais.
Et il se pourrait bien que la suite des événements inspire d'autres réalisateurs. En 2019, la presse américaine annonce que le corps de John Dillinger va être exhumé. Car depuis sa mort, les rumeurs vont bon train. Nombreux sont ceux qui ont affirmé que l'homme abattu par les agents fédéraux n'était pas John Dillinger, mais un sosie. En 1963, le FBI aurait même reçu plusieurs lettres signées du gangster. La suite au prochain épisode.
Oh non Stéphane, vous pouvez pas me faire ça.
Europe 1, historiquement vôtre.
Ah non, pour continuer à parler de John Dillinger, nous sommes avec le spécialiste du cinéma américain, Jean-Baptiste Torré. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste Torré, vous êtes réalisateur, critique et historien du cinéma. Votre spécialité, c'est le cinéma américain et vous avez publié Michael Mann, Mirage du contemporain aux éditions Flammarion. Un livre consacré au réalisateur de Public Enemies dans lequel Johnny Depp incarne John Dillinger. Qu'est-ce qui fait de John Dillinger un personnage hautement cinématographique selon vous ?
Je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui expliquent ça. La première, c'est que c'est quelqu'un, en fait, parce que vous avez dit dans votre récit, vous aviez raison, qu'effectivement, Dillinger a été plusieurs fois porté au cinéma, etc. Mais il est lui-même une source d'inspiration dans ce qu'on appelle les films noirs des années 30. C'est-à-dire qu'avant que Dillinger sorte de prison en 33, avant qu'il soit tué devant le Biograph Theater en 34, il y a déjà des films américains qui valorisent tout ce type de gangster et qui s'inspirent de Dillinger lui-même. Je pense à L'ennemi public en 31 de William Wellman, Scarface, évidemment très connu de War Dogs en 31. Il y a plusieurs films déjà qui se servent de Dillinger. Et ce qui est intéressant en retour, c'est que Dillinger lui-même s'inspire du cinéma. Et donc l'ironie incroyable, c'est que ce type va mourir devant un film dont il pense que finalement ça raconte un peu sa vie. C'est-à-dire qu'il était amoureux de Myrna Loy. Vous savez, à côté de Clark Gable, dans Manhattan Melodrama, l'actrice qu'il fantasme, c'est Myrna Loy. Et lui avait envie de la rencontrer. Il voulait aller à Hollywood, la rencontrer. Il était amoureux d'elle. Et lorsqu'il a eu sa vraie copine dans la vie, il pensait que c'était une sorte de Myrna Loy. Donc les liens entre Dillinger et le cinéma, finalement, ils sont très durs à démêler parce que Dillinger lui-même s'inspirait des films. Il empruntait, par exemple, lors de ses braquages, des répliques à des acteurs comme Edward J. Robinson, James Cagney, ça lui plaisait beaucoup.
Il aurait donc aimé être acteur, en fait.
Oui, mais en fait, c'était déjà presque, d'une certaine façon, un acteur de cinéma dans la vie. Donc il avait une vie rocambolaise, chevaleresque, il était très populaire parce qu'il avait aussi du caractère, il avait de l'humour, il avait un côté un peu le Errol Flynn des braquages de banque, c'est-à-dire qu'une espèce de légèreté. Il était extrêmement soucieux aussi à l'égard des gens qui pouvaient cambrioler, ne jamais tuer des gens pour rien, rendre aux gens l'argent parce que c'était en pleine dépression.
Pourquoi Michael Mann le fait en 2009, le film ? Il y a un sens dans sa filmographie, cette histoire-là, ce moment-là, c'est...
D'abord parce que Michael Mann, c'est peut-être le cinéaste américain le plus intéressé par la question, par la figure du bandit ou du criminel, si vous voulez, mais du professionnel. Et c'est intéressant chez Michael Mann, c'est ce sont des criminels un peu old school. Ce sont des gens qui ont encore un code d'honneur, on pourrait dire façon Melville pour faire court. C'est des gens qui pensent que voilà, il y a du respect, la parole donnée vaut quelque chose, etc. Alors que le gangster plus moderne, il est plus avec capuche, à AK-47. Voilà. Et je pense que quand il fait Public Enemy, ça l'intéresse presque de revenir presque aux ancêtres des bandits de 8. Hein, ces gens-là, d'où ils viennent, et peut-être que Dillinger a été le grand-père de De Niro et de Pacino dans Heat, si vous voulez.
Et dans tous les réalisateurs américains, notamment qui ont imaginé un personnage qui est inspiré de John Dillinger. Vous sentez une évolution entre les années 40 et 2019 ?
Je pense pas qu'il y ait d'évolution parce que chacun a à chaque fois pris un aspect du personnage. On pourrait dire il y a Max Nosek par exemple qui en 45 réalise une version de Dillinger avec Laurence Harvey qui est une sorte de Dillinger complètement aphasique, très très loin de l'image qu'on en a. Bogart, il a à deux reprises il s'est inspiré de Dillinger dans La forêt pétrifiée et puis dans un film très connu qui s'appelle High Sierra, La grande évasion de Raoul Walsh. Et là on voit vraiment ce qui a intéressé Raoul Walsh à l'époque chez Dillinger, cette espèce de type qui avait finalement un cœur d'or. Et on le voit dans le film financer l'opération d'une jeune femme qui a un pied beau, par exemple. Il braque des banques, mais il est quand même, c'est vraiment le Robin des Bois. C'est quasiment un saint. C'est le plus célèbre des gangsters des années 30, Dillinger. Oui, moi j'aurais quand même rajouté Bonnie Parker et Clyde Barrow, qui ont été aussi les grands gangsters, on pourrait dire, de la dépression. Mais l'un et l'autre se nourrissent. C'est-à-dire que le fait que la dépression soit passée par là a aussi rendu populaire tous ces hors-la-loi qui braquaient des banques, d'une certaine façon, pour les gens qui ont été victimes de la dépression. Les hors-la-loi, ils étaient peut-être hors-la-loi, mais c'était plutôt des gens bien qui réalisaient par procuration ce qu'auraient aimé faire de cette façon.
Justement, vous parlez de Bonnie and Clyde, John Dillinger, Bonnie and Clyde, Al Capone. On voit émerger au fil du temps plusieurs figures de hors-la-loi qui ont toutes leur typicité dans la vraie vie comme au cinéma. Est-ce qu'on peut établir une typologie comme ça des gangsters ?
Il y a beaucoup, mais on pourrait dire qu'il y a deux grandes familles de gangsters, à mon avis. Il y a la famille de Dillinger, d'une certaine façon. Donc ça, c'est Bonnie Parker, Pretty Boy Floyd, Clyde Barrow, tous ces gens-là, qui en fait arrivent au début des années 30, mais qui sont plutôt des hors-la-loi dont l'héritage serait le cow-boy ou le bandit du vieil Ouest. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des bandits du 19e siècle. C'est ça qui est intéressant avec Dillinger. Exactement. On est en 32, mais il a déjà une façon de dépenser l'argent. Il ne monte pas une entreprise, il n'épargne pas, il ne fait pas d'économie. Il est dans la jouissance pure et la liberté et l'indépendance. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il perpétue la tradition du hors-la-loi du vieil Ouest. Ça, c'est Dillinger. Ginger et cette bande des années 30. Va arriver à partir des années 40 et évidemment dans les années 50, non plus, on pourrait dire, des hors-la-loi héritus du 19e siècle, mais hors-la-loi, les hors-la-loi du capitalisme contemporain. Sommer, Lansky, Al Capone est déjà un peu comme ça. Donc, ce sont des gens qui montent des entreprises qui n'ont pas du tout envie de coup d'éclat. C'est tout l'inverse. Ils ont envie de passer sous les radars. Ils n'ont pas envie que la police les remarque, etc. Ça devient des chefs d'entreprise. Et d'ailleurs, entre le chef d'entreprise et le chef mafieux, la frontière commence à se brouiller, même jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ça, à mon avis, les deux vraies grandes typologies de gangsters. Ceux qui viennent des cow-boys du 19e siècle et ceux qui embrassent le capitalisme contemporain.
Mais merci beaucoup Jean-Baptiste Torré pour merci tout savoir du réalisateur de Public Enemies. Et je rappelle aux auditeurs votre livre Michael Mann, Mirage du contemporain, qui vient de paraître aux éditions Flammarion.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire dont la vie est digne d'un film. Après John Dillinger, Mathieu, vous nous brossez le portrait, à 99% vrai, de Jordan Belfort, un ancien trader tombé pour fraude fiscale, mais qui, comme on dit, a su rebondir.
Oui, Bernard Madoff en plus sexy, Jérôme Kerviel en plus futé. Voilà, en deux phrases résumé, mon personnage du jour, Jordan Belfort, un ancien as de la City, qui a réussi à inspirer l'un des plus grands réalisateurs de ce siècle, Martin Scorsese, et qui a surtout, à la base, réussi à exciter Leonardo DiCaprio sans être une top modèle estonienne de 19 ans. Et ça, c'est une performance. Laissez-moi vous raconter l'incroyable destin de celui qu'on surnomme le Loup de Wall Street, enfin, qu'on surnomme, qui s'est plutôt surnommé lui-même The Wolf of Wall Street, le titre qu'il a donné à ses mémoires paru en 2007 et rédigé en prison. Qui est donc cet Olybrius ? Alors, si je vous dis Belfort, tout de suite, Stéphane, vous pensez Concoyotte, Maury, vin jaune et saucisse de Morteau. Votre chauvinisme vous perdra, car mon Belfort à moi, son dada, c'était pas tant la Concoyotte que la cocaïne, le sexe tarifé et les champagne showers. Jordan vient au monde le 9 juillet 1962 dans le Queens, dans une famille juive traditionnelle. Ses parents sont comptables, mais déjà, très jeune, Jordan se distingue par un côté rebelle. Son tout premier caprice, il ne veut pas être juif. Il veut à tout prix ressembler aux riches protestants de son quartier, ce qu'on appelle les WASP. Leur fortune le fascine. Mais comment se faire de l'argent de poche rapidement quand on a 15 ans ?
Le sexe.
Non Stéphane, Jordan est encore trop jeune pour exercer la belle profession de gigolo, mais c'est l'été, il fait chaud, alors Jordan a une idée assez incroyable. Et si je vendais des glaces ? Ni une ni deux, il achète une glacière de pique-nique. Oui, alors vous vous dites certainement comment la vie de ce gars a pu inspirer Leonardo DiCaprio. Soyez patient, ça devient intéressant après. Déjà, il faut souligner ce premier succès commercial, car le jeune Jordan a du bagou. Et vous foutez de sa gueule à la fin de l'été, il a empoché plus de 20 000 dollars, le Jordan, avec ses Mr Freeze et ses Cornetto pistaches. Il prend alors conscience de cette vérité éternelle.
Les gens sont cons, faut en profiter.
Maxime, qui est aussi celle de Stéphane, quand il décide de sortir un 18e volume de Secret d'Histoire de Timbre. Oh, Jordan, lui, comprend qu'il est fait pour vendre. Il reprend alors sa glacière, qu'il fourre cette fois de homard surgelé. Son petit business devient grand. En quelques années, il est une valeur montante des surgelés à New York, ce qui est une belle carte de visite. Mais voilà, il finit par faire faillite. Et là, c'est le coup de bambou, Stéphane. Les huissiers saisissent sa Porsche.
C'est dommage.
Il est sous le choc. Comprends. Moi, si les huissiers venaient un jour saisir ma Renault Nevada, je serais vert. Mais Jordan rebondit vite.
Non, mais Nevada,
dans la
c'est
finance.
La sienne. Porsche, c'est la vôtre.
Non. Comment passe-t-on des surgelés à la finance, me direz-vous ? Ça, j'en sais rien. On est aux États-Unis, Stéphane. Tout est possible. En 87, Jordan devient donc très naturellement courtier chez Rothschild, un peu comme votre ami Emmanuel Macron. Avez-vous un souvenir de votre premier jour de travail européen, Stéphane ? C'était assez classique, finalement, on imagine. Vous avez eu droit au traditionnel tour de présentation, à droite la rédac, à droite le bureau de la matinale, on ne dit plus à gauche. Alors, deuxième étage, la cantine, au moins un votre place de parking, du classique. Eh bien, quand Jordan est arrivé pour son premier jour chez Rothschild, c'était à peu près pareil, à quelques exceptions près. Ainsi, après lui avoir montré la machine Selecta, Jordan explique dans ses mémoires que son nouveau boss lui a proposé de l'alcool et de la cocaïne. Indispensable pour tenir le stress dans ce putain de métier et utile aussi pour assurer avec les putes. Fin de la citation. Et ensuite, il a ri comme Olivier Pouls après la farandole des fromages chez Pierre Gagnère. À l'époque, Jordan refuse la cocaïne. Mais il est très bien en fait ce type finalement. Il ajoute dans ses mémoires toujours « Si on m'avait dit à l'époque que quelques années plus tard je ferais exactement pareil, en pire, je ne l'aurais pas cru. » Bien sûr que non, au fond de lui, Jordan est un type sain. Les années 80, elles, hélas, ne le sont pas et c'est difficile d'aller à rebours des modes. Alors peu à peu, Jordan se laisse tenter. Et puis arrivent les années 90, il voit aux infos des types qui réussissent en semblant s'accommoder un peu des règles. Donald Trump, Bernard Tapie, lui aussi il veut croquer. Alors il fonde à Long Island Stratton Oakmont Incorporated, une société de courtage financier aux pratiques, disons, discutables, pour ne pas dire ambiguës, pour ne pas dire totalement immorales. L'idée, si on peut parler d'idée, une armée de jeunes traders, plus de 1000 en tout, sont chargés de lever des capitaux pour des entreprises en convainquant des boursicoteurs de devenir actionnaires. Officieusement, ce bon Jordan Belfort fait grimper artificiellement le cours de ses actions en investissant lui-même dans les sociétés. Et une fois que ses clients pigeons ont accepté et acheté des parts, il revend les siennes à profit. Le cours chute, les autres investisseurs sont ruinés. Et alors, c'est soirée champagne chez David, son associé.
Secoue tes fesses.
Les directives sont extrêmement claires. Les employés ont pour ordre de littéralement harceler les clients par téléphone, tels des vendeurs de véranda. Une règle d'or, ne pas raccrocher avant que le client n'achète ou ne meure. Citation. Dans les bureaux, l'ambiance est qualifiée de bon enfant, good child, comme on dit là-bas. Quand Jordan Belfort décrit l'atmosphère du travail qui régnait dans sa boîte, on a l'impression qu'il nous parle de ses dernières vacances naturistes en Ardèche. C'était grisant, c'était séduisant, c'était libérateur. Ça nous aidait à atteindre des buts qu'on n'aurait jamais pensé être capable d'approcher. Et ça nous emportait tous. Surtout moi, oui, surtout toi, Coco, car c'est à cette époque où l'argent coule à flot que Jordan découvre son petit péché mignon.
J'ai tout mangé, le chocolat.
Oui, alors non, il aimait bien les petits carrés Côte d'Or choco-noisette, mais il se prend surtout d'affection pour la cocaïne et la métaqualone, un hypnotique sédatif. Il en consomme comme des cacahuètes sur un comptoir de bar. Et comme vous le savez, Stéphane, les cacahuètes, ça part vite. Du coup, un jour, ou plutôt une nuit, réalisant qu'il est en rade de poudre, Jordan réveille sa secrétaire à 4h du mat pour qu'elle lui envoie en urgence de la coke en jet privé depuis les États-Unis puisqu'il est en déplacement à Londres. Ah, c'était quelque chose des années 90, David. Dommage qu'on était si petit. Sa vie est un conte de fées un peu trash, mais un conte de fées jusqu'en 1998. Patatras. Jordan est accusé de délit d'initié et de blanchiment d'argent. Pas lui, me direz-vous. Si. Pire, sa deuxième femme, Nadine, le quitte quasi immédiatement. Elle n'était pourtant pas avec lui pour son argent, mais elle part.
Petite chienne.
Non, Stéphane, ne soyez pas dans le jugement. Elle avait peut-être ses raisons. Au début, il se braque quand les flics lui disent que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il leur dit...
Oh, et un bon...
Prenez plutôt un avocat, lui conseillent alors les flics. Finalement, Jordan coopère avec le FBI et effectue 22 mois de prison. Il en profite pour écrire son autobiographie, qui va connaître un succès assez dingue, puisque, comme on l'a dit, avant sa sortie, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt se disputent les droits d'adaptation à coups de millions. Belfort est aussi condamné à rendre 110 millions de dollars aux investisseurs qu'il a escroqués, ce qu'il ne fait pas malgré l'argent que génèrent ensuite les droits d'auteur qu'il touche sur ses livres, puis bien sûr sur le film de Scorsese, ce qui ne va pas l'empêcher, Stéphane, comble de l'ingratitude, de se retourner contre la société de prod du film Le Loup de Wall Street pour réclamer 300 millions d'euros au titre d'une arnaque dont il aurait été victime au moment de la répartition des droits. Vous vous rendez compte, Stéphane, de l'ingratitude ?
Petite chienne.
Je n'aime pas la vulgarité, mais là, je vous donne raison, Stéphane. Depuis quelques années, Jordan tente de corriger son image de gripsou. Il le dit « I'm a new man ». Totalement repenti, il cite volontiers Mandela et Gandhi dans ses conférences. Et quand on le renvoie à ses années d'excès dans la finance, il nuance ses remords en signalant par exemple qu'à l'époque où il avait essayé d'aller contre l'hubris qui déferlait dans sa boîte, et « I wanted to create fucking free zones, but it didn't work ». Je voulais créer des zones sans sexe dans les bureaux, mais ça n'a pas marché. Putain, David, où on était dans les années 90 ? Enfin, ce qu'on peut pas nier, c'est que tout ça fait un très bon film. Je crois que vous aviez beaucoup aimé Le Loup de Wall Street, Stéphane.
C'était super, oui. Les enfants ont beaucoup aimé.
Oui, c'est très pédagogique comme film, c'est sûr.
Merci Mathieu. C'était à 99% vrai.
Oh, ben là, c'était 100% vrai. Une vie comme celle de Jordan Belfort, il n'a pas inventé grand-chose. Hein. Je crois qu'il a tout essayé, tout essayé. Voilà.
C'est fou, ça.
Europe 1, historiquement vôtre.
Allez, il est temps de dire au revoir à nos personnages du jour dont la vie était digne d'un film.
Est-ce que vous avez déjà été contacté pour un biopic, Stéphane ?
Non, pas encore, mais je ne pense pas.
Ça va venir.
Non, ma vie ne le justifie pas.
À mon avis, ça viendra.
Assez parlé de moi, s'il vous plaît. Parlons d'Olivier Pouls.
Oui, mais moi non plus, on m'a encore rien demandé.
Oui, mais par contre, on en veut à vos flacons.
Oui, peut-être.
Alors, vos flacons, vous nous parlez du classement de 1855. Nous, on sait ce que c'est.
Ouais.
Mais peut-être que
certains nous auditeurs... Tout le monde ne le sait pas. C'est un classement de vin. C'est aujourd'hui le plus prestigieux de tous les classements de vin.
C'est lui qui fait, on dit, un tel vin, premier grand cru classé, tout ça, ces étiquettes un peu mystérieuses. Vous nous raconterez qu'est-ce qui a précédé à ce classement. Tout de suite, on retrouve David Castello-Lopez pour remonter aux origines d'un objet de notre quotidien, un produit de notre quotidien, les capsules d'espresso.
Ouais, je pense que tout le monde ici autour de la table est né à une époque où toutes les révolutions majeures de l'électroménager étaient déjà consommées. Mmh. Vous, Stéphane, vous avez été enfant dans les années 60. Mmh. Et bien, dans les années 60, il y avait déjà des frigidaires, des lave-linges, des lave-vaisselles, des fours électriques, des bouilloires, des machines à café, des congélateurs et tutti quanti. Alors bien sûr, toutes ces choses-là, elles ont été améliorées avec le temps. Moi, personnellement, je viens de faire l'acquisition d'un lave-linge séchant de luxe avec affichage digital et un réglage automatique de la quantité de lessive nécessaire en fonction du poids du linge.
Vous êtes vraiment à l'aise financièrement.
Oui, et qui en plus est connecté, c'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, je pourrais lui demander de commencer une lessive à distance. Donc voilà, il y a des petites améliorations comme ça depuis l'enfance de Stéphane, mais pas de révolution, sauf une, la machine à café Nespresso. Bien sûr, ça donne envie de savoir depuis quand ça existe. Le Nespresso, dites une date comme ça, essayez de deviner depuis quand ça existe le Nespresso.
1992.
90.
92. Vous n'êtes pas si loin, vous n'êtes pas si loin, c'est 1986. C'est un monsieur qui s'appelait Eric Favre, qui était suisse, hein, puisqu'il travaillait chez Nestlé, qui a développé la machine. Pour être honnête, 86, c'était balbutiant à l'époque. C'était marketé pour les entreprises surtout, les entreprises suisses et les entreprises au Japon. Et ça a été en plus un flop relatif, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, ce qui est le plus intéressant, c'est de connaître les origines du succès de Nespresso. Donc Nespresso, je l'ai dit, c'est un produit Nestlé. Et il faut se souvenir que Nestlé, niveau café, avant Nespresso, c'était le café instantané Nescafé. C'était ça l'image de Nestlé niveau café. Donc c'était, si vous voulez, l'image de la chipperie la plus totale, du bas de gamme absolu. Et le tour de force marketing de Nestlé, ça a été d'arriver à créer de toute pièce une marque de luxe, de faire entrer dans la tête des gens riches d'abord et des autres ensuite, que Nespresso pour le café, c'était comme Chanel ou Dior pour les vêtements. Et ils y sont arrivés d'abord, pour plein de raisons. D'abord en augmentant le prix des capsules de 50%, puis en proposant un large choix avec toutes les couleurs, ce qui d'un point de vue marketing était assez brillant parce que ça fait passer les gens qui les achètent pour des connaisseurs, même s'ils y connaissent rien. Ça nous donne une bonne image de nous-mêmes et ça fait qu'on apprécie plus ce qu'on boit et donc qu'on continue à l'acheter. Et puis à partir des années 2000, ils ont ouvert des boutiques qui ressemblent à des bijouteries et où sont disposées les capsules. Quand on... Maintenant ça a l'air normal, mais c'était quand même un truc de malade mental de faire ça avec des capsules de café. Et ces boutiques, c'est aussi des clubs où il faut s'inscrire. Et quand on s'inscrit, on donne plein d'infos sur nous-mêmes qu'ils peuvent utiliser ensuite pour cibler leur publicité au mieux. Et enfin, bien sûr, ils ont embauché George Clooney comme visage de la marque, l'homme chic, élégant, raffiné par excellence. Une des seules personnes du monde, d'ailleurs, qui est mieux maintenant qu'il ne l'était à 25 ans. C'est mon avis. Je trouve qu'il est plus sexy, George Clooney, que dans les années 80-90. Et George Clooney, il aurait visiblement touché 40 millions de dollars en tout pour ses pubs Nespresso. Et avec cet argent de poche, ça lui a permis d'affréter un satellite privé pour surveiller le Soudan. pour vérifier que l'ancien dictateur soudanais, Omar el-Béchir, ne tuait pas trop de gens. Voilà, donc il s'est quand même payé avec nos capsules un satellite
privé. Bien, il aurait pu se payer un yacht à la con, il surveille le Soudan. Bravo, le mec est engagé. On y va.
Il est assez généreux pour toutes les œuvres caritatives.
Tout à fait. Donc Nespresso, ils ont vraiment réussi sur toute la ligne. Et d'autant plus qu'ils ont aussi appliqué, vous savez, cette fameuse loi du rasoir et des lames, cette loi de l'imprimante et de l'encre. C'est-à-dire que les machines Nespresso, elles sont relativement bon marché, mais les capsules Nespresso, elles sont très chères. Mais la gloire de Nespresso ne pouvait pas être éternelle.
Non.
Parce qu'en 2012, leur brevet sur les capsules a expiré. Et donc, tout le monde s'est mis à faire des capsules qui fonctionnaient avec les machines Nespresso. Ils ont perdu leur monopole. Et surtout, aujourd'hui, ils ont du mal à se défaire de l'image que les capsules Nespresso, ce n'est pas très nature-friendly.
On dit que même il y a de l'aluminium. Ou je ne sais pas ce qu'on dit.
Alors ça, c'est pas ce qu'on dit, c'est un fait. Elles sont toutes en aluminium. Elles sont recyclables, mais pas beaucoup de gens les recyclent parce que c'est un petit peu chiant. Et donc voilà. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, pour finir, qu'il y a une machine Nespresso dans la rédaction d'Historiquement Vôtre, mais qui fonctionne avec des capsules professionnelles Nespresso qu'on ne peut pas acheter dans les boutiques. C'est-à-dire qu'il faut être une entreprise. Elles sont juste différentes, plus chères. Je pense que c'est pour faire payer plus cher, parce que les entreprises, ont plus de moyens que les particuliers. Oui. Et si on leur dit juste c'est les mêmes capsules, mais plus chères, c'est pas possible. Donc c'est un truc, à mon avis, marketing aussi. Donc ça fait plus d'un an, que j'ai cette machine sous les yeux sans pouvoir faire de café. Et je peux vous l'annoncer aujourd'hui, ce problème sera réglé prochainement.
Vous avez commandé
des capsules
professionnelles.
Je me suis débrouillé pour commander des capsules professionnelles.
On va tous en bénéficier.
Pour tout le monde. Ce sera mon cadeau, un de mes nombreux cadeaux à Historique.
Bravo, David.
On retrouve les origines, Stéphane.
En podcast, sur toutes les applis audio, en vidéo, sur YouTube, Dailymotion, évidemment sur le site europe1.fr, où vous nous ferez peut-être une démonstration de la première capsule professionnelle.
Si les gens suivent,
suivi, vous savez.
Historiquement vôtre.
Après un petit café, on va passer à un liquide plus intéressant.
Oui, selon
Olivier Pouls, notre George Clooney à nous. Il y a un classement qui permet de distinguer les grands crus de Bordeaux, notamment du Bordelais et un peu de Bourgogne, vous nous disiez. C'est le classement.
De Bourgogne. Je vais vraiment tout mettre à plat. Non, vous allez voir.
Non. On s'en sert, c'est.
Pas du tout. Uniquement les vins du Médoc et de Sauternes.
Sauternes,
classement de 1855. Alors, ce n'est pas le plus ancien des classements qui ait été fait en France. Celui-là date donc, comme son nom l'indique, de 1855. Alors, pourquoi existe-t-il ? Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là ? Eh bien, c'est un classement qui a été établi à la demande de Napoléon III. à l'époque pour l'exposition universelle de 1855, au cours de laquelle on entendait présenter des vins de Bordeaux. Et comme on ne pouvait pas les hiérarchiser sur place, c'était trop compliqué, on a demandé à la Chambre de commerce de Bordeaux de s'occuper de faire un classement. Et c'est le Médoc et la région de Sauternes qui dépendaient de la Chambre de commerce de Bordeaux. Et c'est donc pour ça que ce sont exclusivement ces vins-là qui ont été classés cette année-là. Et non pas, par exemple, les vins de Saint-Émilion qui dépendaient de Libourne. Alors, comment ont-ils fait ? Eh bien, ils se sont adressés au syndicat des courtiers, qui connaît extrêmement bien le milieu du vin, puisque c'est eux qui font l'intermédiaire, finalement, entre les négociants et les producteurs. Et ils se sont basés sur une chose extrêmement simple, le prix. En se disant, finalement, le marché a toujours raison. Quand c'est très bon, c'est très cher. Quand c'est moins bon, c'est moins cher. Et donc, ils ont pris les cours des principaux vins de cette région-là et les ont hiérarchisés en cinq niveaux de catégorie, de premier à cinquième grand cru classé. À l'époque, 57 propriétés sont classées en rouge et 21 en blanc. Et alors, parmi l'élite, il y en a 4 qui sont les châteaux. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez l'habitude d'en voir ? Non, alors ça, c'est Saint-Émilion. Alors, je vais vous les donner.
Pomerol.
Lafitte, Latour, Margaux et Aubryon, qui est pourtant un château qui est situé non pas dans le Médoc, mais aujourd'hui en Pessac-Léognan, qui est aux frontières de Bordeaux et qui va être intégré à ce classement. En tout, j'ai donc dit 57 châteaux. Aujourd'hui, ils sont 61. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des divisions de châteaux. Par exemple, le château Pichon-Longueville a été divisé en Pichon-Baron et Pichon-Comtesse. Mais il y a aussi eu deux modifications dans ce classement, seulement deux depuis qu'il était créé. La première modification est intervenue la même année, mais en septembre 1855, alors que le classement avait été publié en avril, avec l'intégration du château Cantemerle. Et la deuxième modification, qui est très importante, elle a permis au château Mouton-Rothschild en 1973, de passer du statut de second grand cru classé au statut de premier. Ce sont les deux seules modifications.
Mais c'est quoi, c'est du lobbying ? Qu'est-ce qui aboutit à ça ?
Alors, à l'époque, figurez-vous, il y a un peu de lobbying, parce que le château Mouton-Rothschild appartient, comme son nom l'indique, à la famille Rothschild, qui a travaillé au sein de cette banque Rothschild pendant quelques années avant de devenir un célèbre ministre signant le...
Et le président de l'époque n'est autre que Georges Pompidou, qui travaillait chez Rothschild.
Le président, c'est Georges Pompidou. Un certain Jacques Chirac a également des relations très ténues avec la famille Rothschild. Et c'est lui qui, ministre de l'Agriculture, va signer en 1973 le décret permettant à Mouton Rothschild de passer premier grand cru classé.
Mais pourquoi il y a des grands crus aujourd'hui qui ne sont pas classés ?
Alors, chaque région s'inspirant de ce classement va, dans les années suivantes, tenter d'en créer ou en créer. Mais ce que je voudrais dire, ce qui est très important, c'est que ce classement, lorsqu'il est fait, c'est un classement de marque et non pas de terroir. C'est-à-dire que ce sont les châteaux qui sont classés et non pas leurs vignes. Et ce qui va faire que, depuis la création de ce classement, pratiquement tous les châteaux vont voir leur foncier évoluer. Parce qu'à partir du moment où vous achetez les vignes qui sont voisines des vôtres et qui sont au sein de la même appellation, vous avez parfaitement le droit de les intégrer dans votre production. C'est une bagarre juridique sans fin. Les propriétés classées en 1855 n'ont pas du tout envie de voir arriver d'autres châteaux.
Qu'est-ce que ça peut leur faire ?
On n'a pas forcément envie de se diluer.
On n'a pas envie de se diluer, ça
pour
sera
un bon vin.
Le mot de la fin.
Vous ne mettez pas d'eau dans votre
on
vin.
On ne coupe pas de vin. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes et le classement de 1855 sur le site d'Europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, bon, vous connaissez le principe maintenant de la lutte finale. Il faut répondre vrai ou faux. Et s'il faut départager, il y a une dernière question. Je commence toujours par Olivier. Vous connaissez la ville de Maastricht qui est connue évidemment pour son traité européen. Mais aussi parce que D'Artagnan y est mort. C'est vrai ou faux ?
D'Artagnan mort à Maastricht.
Le personnage ou D'Artagnan qui a existé ?
Je vous parle du D'Artagnan historique, évidemment.
Le vrai. Oui, dans ce cas, il peut tout à fait être mort là-bas, pourquoi pas ?
Charles de Batz de Castelmore, dit D'Artagnan, qui a vécu évidemment au XVIIe siècle, eh bien, ses mémoires ont inspiré Alexandre Dumas. Et il est mort, effectivement, en 1673, pendant la guerre de Hollande, durant le siège de Maastricht. David, c'est au XVIIe siècle que la cravate remplace le jabot de dentelle. C'est Louis XVI, en 1669, qui demande à ce qu'il y ait un cravatier à la cour. Vrai ou faux ?
Alors, Louis XVI en 1660,
ça, c'est pas possible. Donc, ça, déjà, ça n'a pas de sens.
Donc, non.
C'est trop facile.
Mais qu'est-ce que c'est que cette question ? Là, oui. Moi, je m'en vais. Hein. S'il y a encore des questions à la con comme ça avec Louis XVI en 1669.
Okay. Ma vraie question.
Mais non,
ma vraie
c'est question. Pas possible, ça. Ah.
Mais si, une vraie
c'est
question.
Trop facile. Mais c'est pas de ma faute si c'est trop facile, c'est pas moi qui ai question.
C'est Louis XIII qui a fait entrer la cravate à la cour parce qu'il trouvait très joli ce que portaient les officiers croates.
Louis XIII qui a fait rentrer la cravate à la cour parce qu'il aimait bien ce que. Je dirais que c'est faux.
Oh, quel dommage, David!
C'est vraiment dégueulasse.
La cravate.
C'est dégueulasse. Moi, j'ai deux. Moi,
le
je dois répondre à deux questions.
Vient de Croate.
Ah,
et le régiment.
Je donne un indice. Il a été obligé, Stéphane, là, d'inventer une question, sur le champ en dérivé de celle-ci. Donc, forcément, c'était un truc vrai.
Mathieu. La station de ski de Courchevel, là, vous allez tous les
hivers, oui.
Est née grâce au régime de Vichy sous Pétain. C'est vrai ou c'est faux?
Si c'était le cas, je n'irais plus jamais. Je dirais que c'est vrai.
C'est vrai.
C'est vrai.
Vichy va adopter de nombreuses lois pour structurer l'urbanisme et favoriser l'émergence de stations de sports d'hiver, de ski. Il y a Courchevel, sous Pétain. Il y a Val d'Isère et Serre-Chevalier.
Je demande à être réintégré dans la question qui départage tout le monde. Au moins.
D'accord.
Comment d'accord? Mais on peut vous soudoyer très facilement, c'est inquiétant Stéphane, quand on sait vos
responsabilités. En régie, on dit que c'est possible. Voilà.
C'est honteux.
La question qui départage, donc c'est le plus proche de la bonne réponse. Évoquons avec pudeur la mémoire de notre ancien président de la République, Jacques Chirac. Mm-hmm.
Celui qui avait magouillé pour Mouton Rothschild.
Je vous demande vraiment une question qui marque tout le respect que nous avons pour lui.
Bien.
À quel âge a-t-il été dépucelé ?
Vous avez osé salir la mémoire d'un président de la 5e.
Ouais. Non, là, on peut faire ça très proprement.
Écoutez, j'avais 12 ans.
12 ans ? 12 ans ?
Effectivement, on se dit jeune, donc je dis 14.
Ah bah, je dis 13.
Et donc.
Mais vous n'avez pas calculé, Stéphane, ça ne devrait pas être très compliqué.
C'est David qui gagne.
Ouais,
c'est 18 ans.
Mais non, mais c'est dégueulasse. Il n'aurait pas dû être dans la question.
Je sais que c'est dégueulasse. C'est en ça que c'est merveilleux.
Sinon, j'aurais gagné.
Oh, c'est ça la lutte finale. C'est toujours
injuste. Historiquement vôtre, c'est terminé. Les amis, un numéro que je qualifierais de mi-figue, mi-raisin. Mi-figue parce qu'on a découvert qu'il y avait quand même des gens qui avaient eu des vies extraordinaires. Mi-raisin parce qu'évidemment, comparé à eux, on réalise à quel point nos vies à nous sont mordes, hein David ? Vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez vécu un truc de dingue ?
C'était le jour de la mort de Michel Rocard.
C'est QFD, c'est QFD. Lequel de nos personnages vous a le plus bluffé, Stéphane, aujourd'hui ?
Écoutez, Jordan Belfort.
Oui, parce que sa vie est... Normalement, il n'y avait qu'à acheter les droits. Et oui, c'était fou. Oui. Mais vous avez vu Loulou de Wall Street, quand même.
Oui, mais je pensais...
En pensant que c'était une fiction.
Oui, en fait, je ne pensais pas que tout était vrai.
Tout était vrai. Je crois, Stéphane, que vous avez déjà le programme de demain, sachant que vous êtes comme nos personnages de demain, justement.
Oui, demain, on réunit des personnages qui sont sacrément en avance sur leur temps, ce qui n'est pas mon cas. Le premier est le seul maire noir de Paris, Severiano de Heredia, aux idées d'avant-garde, puis le philosophe Spinoza...
Et A$AP Rocky, qui n'a rien à voir avec Rocky qu'on connaît, hein. Lui, il fait du rap tellement en avance sur son temps que pour le citer, les autres le rattrapent des années plus tard. Oui, je vous l'accorde, il a un peu le boulard.
Oh, j'ai hâte de le connaître, mais moi qui vis modestement dans le présent, je vous dis à demain, Mathieu. À demain, les amis, à demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.